Bonjour à tous, c'est Popcorn et c'est la 26e émission de la saison. Bonjour à tous, c'est Popcorn et c'est la 26e émission de la saison. Vous êtes donc sur rsp.fm et je suis aujourd'hui en compagnie de Clément. Bonjour Clément.
Bonjour.
De Philippine. Bonjour Philippine.
Bonjour.
De Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour.
D'une petite nouvelle qui est Clémence. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Et d'Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Pour vous parler donc de quatre films qui sont sortis cette semaine, on va bien entendu parler donc de Margin Call, de Barbara, donc l'ours d'argent à Berlin, de la mise en scène, ainsi que de Miss Bala de Gerardo Naranjo. Et pour finir, on va parler également de
Walk Away René
de Jonathan Cahouette, 7 ans après Tarnation, même 10 ans après Tarnation quasiment. Voilà, on va donc tout de suite commencer avec le film allemand, donc vainqueur de l'ours d'argent de la mise en scène à Berlin. Il s'agit de Barbara, dont on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce.
Seen it?
No.
Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin, von der Charité, und hat sich entschlossen, hier bei uns.
Wir haben uns schon vorgestellt. Also.
Hast du das Geld bekommen? Du musst das Wasser dicht einpacken.
Übers Wasser? Wann?
Bald. Sehr bald.
Sie sollten sich nicht so separieren.
Voilà, donc c'était la très belle langue allemande de Barbara. Et donc c'est tout de suite Philippine qui va nous présenter le film.
Alors Barbara, c'est un film de Christian Petzold avec Nina Hoss comme personnage principal. Cette actrice, qui est donc l'actrice fétiche du réalisateur, incarne ici une femme pédiatre qui, à la suite, comme elle est accusée par les autorités d'Allemagne de l'Est de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée de Berlin à une petite ville de province où elle se sent à la fois complètement enfermée et scrutée par ses collaborateurs et où en même temps elle prépare son évasion. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce film ?
Oui, donc j'ai envie de dire en premier, pour une fois qu'un film sur l'Allemagne de l'Est n'est pas sombre et noir. Je pense que c'est déjà un bon point à signaler. Ensuite, contrairement à pas mal de films sur cette période, notamment Goodbye Lenin ou même La vie des autres, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de manichéisme. On est beaucoup moins dans une opposition entre les méchants d'Allemagne de l'Est, la Stasi et tout ça, contre les gentils d'Allemagne de l'Ouest. Et après, je pense que ça permet une critique un peu plus dissimulée, mais qui reste quand même assez forte. Donc surtout que cette critique est pour une fois étayée par un beau jeu sur la lumière, avec des couleurs vives, des beaux paysages. Hein. On n'a pas l'habitude de voir une si belle Allemagne, donc ça fait assez plaisir. Et après aussi, ce chatoiement dans les couleurs du paysage contraste bien aussi avec la... J'irais le personnage principal, qui est vraiment une femme qui paraît glaçante de prime abord, très distante, visage fermé avec ses collègues. Mais derrière cette façade, donc, qui est due certainement au fait qu'elle soit suivie par les autorités de manière vraiment quasi harcelante, ou plusieurs fois des membres de la Stasi, d'ailleurs, qui n'est jamais cité dans le film, viennent lui rendre visite chez elle avec fouille de tout l'appartement, fouille au corps. Donc c'est une femme qu'on pourrait penser brisée par l'oppression du régime, mais finalement c'est une femme qui se dévoile comme une femme aimante et comme une femme qui marche vraiment à l'émotion. Donc on peut voir que son visage, pendant la majeure partie du film, ne s'illumine que dans de très rares occasions, soit quand elle voit Stella, cette pauvre patiente atteinte de troubles qu'on pourrait qualifier de mentaux, mais qui est surtout détruite encore une fois par le système et par ce camp de redressement, quasi camp de travail. Et cette Barbara s'illumine surtout quand elle voit Jörg, son amant, donc riche homme de l'Ouest, qui peut venir la voir assez régulièrement et avec qui elle tente de planifier, d'organiser sa fuite. Donc pendant tout le film, cette distance, on la comprend dans le sens où peut-être elle ne veut pas s'attacher, sachant qu'elle va devoir partir. Mais il y a derrière cette distance la figure de André, donc de Monsieur André, le chef médecin, qui essaye de percer cette carapace. C'est un homme assez nounours, qui pourrait paraître ridicule sous beaucoup d'aspects, mais qui essaye vraiment d'aller derrière le charme froid de cette carapace, et qui, à mesure d'attention, de confidence et de discussion, réussit à faire naître une pointe d'humanité un peu plus révélée chez cette femme, et qui finalement va faire naître en Barbara de véritables hésitations, de véritables doutes. Et on se rend compte que, tiraillée par l'envie de fuir, mais par le désir de rester pour remplir son devoir envers les patients, et on ne sait pas vraiment, mais peut-être son amour pour André, donne une très belle réponse à toutes les hésitations qu'on aurait pu voir et qu'on voyait à l'époque dans ce peuple. Et donc ça se finit sur une fin qui peut paraître déroutante, qui peut paraître triste, mais qui, à mon sens, paraît plutôt comme un véritable message d'espoir.
Voilà, Alexandre a souligné le caractère lumineux du film. Est-ce que Christian Petzold, selon toi, Clément, est le Bully Lanners de l'Allemagne?
J'irai pas jusque-là. Bon, déjà, il n'y a pas d'enfant, malheureusement, alors ça manque quand même, et c'est pas très absurde comme film. Non, mais je vais revenir sur ce que tu as dit, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le début. Ça fait du bien, entre guillemets, de voir un film qui traite de l'Allemagne de l'Est et qui effectivement est lumineux, avec un vrai travail sur les lumières. Surtout, qui arrive à être lumineux, à être en même temps, je trouve, au moins aussi paranoïaque, enfin, te rendre aussi paranoïaque qu'un film comme La vie des autres. C'est plus ça qui est intéressant, sachant que dès le départ, effectivement, tu l'as peut-être pas assez, enfin, dit, elle revient, non pas, on l'a pas exilée, enfin, d'abord, elle a effectivement fait un séjour, on sait pas combien de temps, en prison. C'est surtout ça qui l'a brisée. Effectivement, quand elle revient, elle est méfiante surtout. Elle en a bien raison, puisque ce médecin, André, enfin, ce docteur-chef est d'abord, enfin, aussi, mais comme à peu près 10% des Allemands de l'Est à l'époque, quelqu'un qui donne des renseignements effectivement à la Stasi et qui est chargé, mais spécifiquement, de surveiller donc le personnage principal. À partir de là, cette méfiance, elle est naturelle. Donc moi, j'ai trouvé vraiment le début du film assez prenant. Après, voilà, c'est un film qui a, disons, c'est assez difficile, une fois passé l'élément de surprise, d'avoir une Allemagne de l'Est lumineuse un peu moderne aussi. Moi, j'ai trouvé, je pense qu'on se situe vraiment presque à quelques années juste avant la chute du mur. Enfin, c'est une Allemagne des années 80, donc c'est assez frappant de voir ça. Mais au-delà, c'est pas non plus c'est un petit film d'auteur. J'ai pas trouvé que, à part le jeu de lumière, justement, que la mise en scène en soi était exceptionnelle. Donc soit je suis passé à côté de quelque chose, enfin, juste en termes de mouvement de caméra, de construction des plans. J'ai pas été plus impressionné que ça par la mise en scène, qui était relativement sobre et épurée. Donc voilà, ça reste un bon film, mais qui est pas non plus très 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 prenant. Et moi, contrairement à toi, j'ai peut-être été un peu effectivement déçu par le retournement final.
Voilà, donc on va demander à Pauline tout de suite si à son avis il a mérité cette ours d'argent de la mise en scène.
Oui, tout à fait, à mon sens c'est un très beau film, donc je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit, le fait que le film se préserve bien de tout très figé qui aurait pu être présent dans les autres films sur l'Allemagne de l'Est, et également donc cette lumière très belle qui illumine les visages et les paysages. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est aussi le parti, à mon avis très réussi, de montrer une sorte d'entrelac, en fait, entre les relations humaines, qui se préserve vraiment de tout manichéisme. Et en fait, en mêlant différentes situations et différents types de rapport à l'autre. Donc, on l'a dit, il y a quand même l'aspect de méfiance qui nous rend paranoïaque, comme Clément l'a dit, qui est constante. On a une focalisation, en fait, sur les regards. Par exemple, le regard de la concierge de l'immeuble qui va regarder Barbara d'un mauvais œil. Donc, on a vraiment cet aspect de méfiance constante dans les rapports. Les membres de la Stasi qui viennent chez elle, donc on a cette constance suspicion qui est représentée dans la froideur de Barbara, mais on a aussi qui vient se greffer sur ces rapports-là de méfiance, l'attention à autrui. Et donc là, on l'a dit également, c'est Barbara qui va s'occuper d'une jeune fille qui revient d'un camp de travail complètement anéanti. Barbara qui va s'occuper également d'un jeune homme qui a tenté de se suicider. Et donc là, on la voit vraiment dans un autre système de relations où elle va plus lâcher du lest et être bien plus bercée par une sorte de tendresse maternelle. Donc moi, j'ai trouvé intéressant le fait d'entrelacer ces deux aspects-là et de montrer que tout en ayant cette méfiance et cette société assez malveillante envers autrui, le fait que pouvait venir se greffer également une attention à l'autre. Et dans un autre argument qui est sur ce même registre d'un dosage qui me semble assez savant, il y a aussi le mélange en fait du politique et de l'intime qui viennent en fait se fondre l'un dans l'autre, parce qu'en fait finalement Barbara doit choisir entre deux modes de vie, soit rester dans sa nouvelle province à l'est et subir cet enfermement constant, soit s'enfuir à l'ouest, mais ce n'est pas qu'un choix politique finalement, c'est aussi un choix de vie personnelle, et elle a aussi à choisir entre deux hommes finalement, entre son bel amant de l'ouest et le docteur André, c'est ça, le docteur André, qui est ce personnage sympathique qui mêle également cet aspect d'attention et de méfiance, puisque Barbara, on ne sait jamais vraiment s'il ressent vraiment une affection pour elle ou s'il essaie de la manipuler pour la faire se sentir bien dans la province et pour qu'elle y reste et qu'elle ne s'enfuit pas. Donc on a vraiment cette sorte de personnification en fait de deux situations, de l'ouest et de l'est, dans ces deux hommes, et qui me semble très pertinente, et pour moi c'est un très beau film.
Voilà, Philippine, donc la spécialiste des films d'enfermement, va nous dire si elle a été touchée par l'enfermement de Barbara comme dans l'enfermement de Frédéric Vidot.
Mais moi je suis vraiment d'accord avec Pauline, pour moi c'est peut-être un petit film d'auteur, mais un très beau petit film d'auteur. Peut-être que ces tours d'argent de la mise en scène n'est pas ce qui m'a frappé le plus dans ce film. Les plans sont très bien construits et intelligemment construits, mais je dirais que ça saute vraiment pas aux yeux. Ce qui m'a le plus marqué, outre la performance d'actrice de Nina Hoss, qui est absolument magnifique, je pense qu'on l'a pas assez dit, alors qu'elle porte véritablement le film sur ses épaules, elle est à la fois complètement murée et fascinante, elle a un charisme elle dégage un charisme qui est impressionnant. Et outre cette actrice donc qui est au cœur de ce film, il me semble que je pense qu'on l'a dit, le discours qui est tenu sur l'Allemagne de l'Est à cette époque est d'une intelligence qui est assez rare, parce que non seulement je trouve que le film commence sur un parti pris assez audacieux et qui peut faire sourire, c'est que ce système de la RDA, c'est un système politique qui sait tout de ces individus, qui les fiche, qui les fouille, qui fouille leur appartement. Et au contraire, ce dont s'amuse le réalisateur, c'est à ne rien nous dire sur ces personnages. L'action débute en quelque sorte in medias res, c'est-à-dire que elle arrive dans ce petit village de province, elle a un passé qui est évoqué en deux, trois mots, elle est en détention, comme tu l'as dit, Clément, et celui qui va être son interlocuteur dans cet hôpital, à savoir le médecin-chef André, c'est tout d'elle. Et donc, ils n'ont pas besoin de se le dire et ils n'ont pas besoin de se l'expliquer. Et donc, le réalisateur choisit que nous, spectateurs, ne sachions rien de ces personnages. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intelligent et qui est vraiment... c'est vraiment exploiter un système jusque... c'est où est-ce que peut aller justement cette information absolue sur un peuple. Après, ce que je trouve aussi très très intéressant dans ce film, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, Barbara est un film lent. Et je pense que ça signifie beaucoup sur la façon dont on vivait à... sous l'Allemagne de l'Est. C'est en quelque sorte, c'est un espèce d'espace clos où on n'a rien à faire et du coup on attend. On attend quoi ? On attend que un malade déboule à l'hôpital, que la police vienne inspecter son appartement, et puis surtout on attend que Barbara s'enfuit, puisque c'est clairement affiché dès le début comme un de ses projets. Et là où c'est très intéressant, c'est que à partir du moment où on a la date de cette fuite, eh ben, le temps se ralentit encore de manière très très bizarre. Parce qu'on pourrait penser que justement elle est dans la préparation très active de cette fuite. Et pourtant, la fuite est sans cesse retardée par différents éléments, par une opération, par une nouvelle rencontre. Et c'est vrai que du coup, la seconde moitié du film, on peut dire, à partir du moment où elle, plutôt le dernier tiers, quand elle a la date du moment où elle doit fuir, est plus lente même que la vie quotidienne. Et je trouve que ce paradoxe est vraiment bien rendu et crée une tension qui nous met dans un état d'alerte. Et après, je voudrais juste rapidement dire qu'il y a vraiment une limite qui est très ténue entre justement le bien et le mal dans ce film, c'est-à-dire que les bons et les méchants se confondent totalement et que même le plus méchant d'entre les méchants, c'est-à-dire l'inspecteur de la Stasi qui déboule à toute heure du jour et de la nuit chez Barbara, finalement révèle un côté humain qu'on ne dévoilera pas ici. Et c'est encore mieux rendu, je pense que vous l'avez bien souligné, par le personnage d'André qui est, comme tu l'as dit Pauline, entre la tendresse et l'espionnage. Donc pour moi, Barbara est vraiment un très très beau film et j'avoue que je ne connaissais pas les autres films de ce réalisateur et qu'il propulse véritablement une comédienne formidable.
Voilà, donc c'était les avis assez unanimes pour le film donc Barbara, Ours d'argent, au dernier festival de Berlin. On va tout de suite passer à un autre film. C'est le film donc de J.C. Chandler au casting 5 étoiles. Ça parle de Wall Street et ça s'appelle Margin Call, dont on vous passe tout de suite une partie de la bande-annonce.
Are extraordinary times, as you very well must know.
I don't understand.
The majority of this floor is being let go today.
Eric, I'm very sorry.
I was working on something, but they wouldn't let me finish it. So, take a look at it. Be careful.
Voilà, Margin Call qui, contrairement à sa bande-annonce, n'est pas un film d'action ni un film à suspense, contrairement à la musique qui en ressort. C'est effectivement un film sur la bourse, ses dérives et l'absurdité peut-être des marchés financiers qui licencient à tour de bras. On retrouve au casting Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Simon Baker et Demi Moore notamment. Donc un casting assez abouti pour ce film de J.C. Chandler. T'en as pensé quoi, toi, Clément, du film ?
Bah moi, j'ai plutôt aimé ce film. Je vais pas non plus le porter au plus haut, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est d'abord un casting assez impressionnant. Mais surtout, pour être un peu plus précis, c'est à la base effectivement un film entre guillemets qui se veut d'action, mais surtout qui enferme tous ces personnages un peu comme on l'a vu déjà avec Barbara, c'est-à-dire que Zachary Quinto, jeune ingénieur absolument brillant, petit génie, récupère une clé USB de son ancien patron qui vient effectivement d'être viré dans une scène assez, vraiment très bien faite de licenciement collectif où à peu près la moitié de l'étage se voit signifier la fin de son contrat. Et donc on est plongé au cœur de la nuit donc dans cette banque, puisqu'il s'avère que les positions prises donc par l'étage en question, donc sur les actifs sur lesquels ils sont en train de commercer, excèdent largement en fait la valeur de la banque, et qu'au moindre retournement de marché ou même au moindre achat supplémentaire, la banque risque de faire faillite. Donc c'est vraiment, on est plongé dans ce bâtiment tout du long du film. On n'en sort qu'à de rares exceptions. Alors effectivement, Chandler, c'est son premier film. C'est d'abord quelqu'un qui faisait des clips, donc pour le coup il y a une esthétique assez particulière dans son cinéma, que moi j'ai trouvé assez intéressante, qui n'en devient pas lassante, même si elle est faite d'obscurité. On maintient constamment cette espèce de huis clos entre tous les personnages, on en sort qu'à de rares occasions. Et puis effectivement, c'est un film qui est très très bien interprété. Moi je m'intéresserais peut-être plus particulièrement à Jeremy Irons, qui est le banquier en chef entre guillemets, qui n'a absolument mais aucun scrupule, aucun remords dans sa prise de décision. Donc voilà, c'est un film où on passe constamment du N plus 1 au N plus 1, c'est-à-dire du boss, et ainsi de suite, jusqu'à faire venir donc Jeremy Irons en hélicoptère à 3h du matin dans la banque pour enfin prendre la décision de savoir s'il faut ou non vendre l'ensemble des actifs en question, au risque effectivement de détruire complètement le marché, et avec les conséquences qu'on peut connaître sur l'économie réelle. C'est aussi un film qui est particulièrement réaliste, dans la mesure où effectivement ça prend pas de gants avec le spectateur, c'est-à-dire qu'on n'explique pas ce que c'est qu'un CDS, comment ça fonctionne, comment la crise des subprimes s'est déclenchée. ont vraiment, je pense qu'il faut avoir un peu, c'est peut-être un des défauts du film, mais il faut un petit peu s'y connaître pour comprendre les mécanismes en question, si on veut vraiment comprendre, enfin, de manière approfondie le film. Après, moi, c'est un film qui m'a laissé sur ma faim, d'abord juste en termes de scénario, ça, on se lasse assez vite, l'action ralentit sensiblement, une fois qu'effectivement l'hélicoptère est arrivé pour signaler que le Big Boss est arrivé, on sait que la seule issue sera l'ouverture des marchés le lundi matin, enfin, ou le jour suivant. Et en fait, c'est une fausse résolution qu'on nous propose. On sait très bien ce qui va se passer et on nous présente cette séance boursière, enfin d'ouverture des marchés, comme voilà le point d'aboutissement du film, alors que l'histoire s'est déjà passée dans la vraie vie et que à aucun moment dans ce film on peut se dire que la situation va pouvoir se dérouler autrement. Et puis surtout, moi j'ai trouvé que c'était un film qui, alors que sur certains points il innove par rapport à cette espèce de sous-genre du film de finance, par rapport à un film comme Wall Street 2 qui était vraiment particulièrement mauvais. Non mais il faut le souligner, il y a quand même des apports qui sont vraiment très très bien, et ça tient notamment à la personnalité de Chandler, dont le père était effectivement trader, donc il connaît particulièrement le milieu, mais on n'en évite pas moins quand même pas mal de poncifs, de clichés, du type l'ingénieur absolument brillant qui va s'amuser à compter le nombre de kilomètres qu'il aura fait économiser aux Américains et à comparer ça avec les millions qu'il a gagnés, et à en conclure sur l'inutilité de son métier, ou ces scènes dans une décapotable où on ne peut pas s'empêcher de rappeler que c'est peut-être pas la faute des traders, mais plutôt du mode de vie américain, et que puis... Bon, on n'a vraiment pas de chance parce que les traders seront les premières victimes et qu'ils seront de toute manière, quoi qu'ils fassent, cloués au pilori. Donc voilà, c'est un film en plus qui est effectivement assez ambigu dans son propos. Je pense qu'il y a une certaine part de fascination aussi du réalisateur pour ce métier-là, pour ces gens-là. Même s'ils sont des salauds, il le dit très clairement, il l'affiche très clairement. Mais n'empêche qu'on a l'impression qu'il est quand même fasciné, non pas par cet appât du gain, mais je sais pas moi, par cette...
Ce sont des salauds qui rachètent quand même pendant le film. Il les rachète à mesure.
Mais effectivement, pour rester dans les clichés, il y a Kevin Spacey notamment, c'est plus le bon paternaliste américain, bon patron d'entreprise familiale que le vrai requin de la finance. Effectivement, on a ce genre de personnage, donc je sais pas, moi, pour moi le film... Après, c'est un choix ou non de ne pas prendre une position sur la crise. On est dans une fiction. Mais reste un petit peu ambigu sur pas mal de choses. Donc moi, je suis un peu resté sur ma faim là-dessus.
Voilà, on va demander à Philippine si elle était aussi conquise par Clément que par Margin Call.
J'aime plutôt le film, même si, comme l'a souligné Clément, j'avais beau être pas mauvaise en économie, j'ai vraiment pas compris au début ce qui se passait. Et alors évidemment, on comprend aux têtes consternées des acteurs qu'il y a un problème, mais lequel, j'ai été complètement incapable de le figurer. Après, je trouve que sa description justement et cette plongée, puisque c'est véritablement une plongée dans un huis clos, dans un temps très très bref, dans un rythme très soutenu et avec des plans très très serrés, cette plongée dans le monde des traders m'a paru vraiment vraiment intéressante. Et c'est vrai qu'il y a une forme de fascination qui, moi, m'a pas semblé être quelque chose de très positif. Et je pense pas que ce soit une admiration, mais c'est plutôt le fait que, en fait, la figure du salaud, à partir du moment où elle se revendique comme salaud et comme mec qui brasse des tonnes d'argent et qui en a rien à foutre et qui se sait déconnecté de l'économie réelle, à partir de ce moment-là, la figure du salaud qui se revendique, il me semble, est intrinsèquement fascinante. Et c'est pour ça, je pense, que on peut avoir cette impression devant le film. Après, je trouve qu'il y a aussi un côté quand même totalement effrayant dans ce mode de vie-là de ces traders, puisqu'on est face à des masses d'argent impressionnantes et que, justement, ils n'ont que ce mot-là à la bouche, que tout le film n'est qu'une question d'argent. Les rapports entre les différents personnages sont uniquement des rapports d'argent. Et c'est assez bien... Chandler pousse le paradoxe jusqu'à sa limite, encore une fois, qui est justement dans la figure du jeune trader qui vient d'être embauché, joué par un acteur de Gossip Girl, dont Penn Badgley, je crois, ou un truc dans le genre.
Et, quelle culture philippine, nous saluons tous.
Vous savez, à Popcorn, on est éclectique. Et bref, tout ça pour dire que justement, ce jeune trader-là, lui... Tout ce qui l'intéresse, il assiste à la faillite, à ce qui va entraîner la crise, il le sait pas, mais bon, nous, on le sait. Et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de raconter à ses collègues combien gagne un joueur de foot, combien gagne un chanteur, combien gagne un grand patron de banque. Et il débite à longueur de film ces sommes astronomiques, avec à chaque fois la même question. Savez-vous combien gagne...
Je suis peut-être pas entièrement d'accord avec toi, à partir du moment où, effectivement, ce personnage réalise... qu'avec ce qui est en train de se passer dans la nuit, il risque effectivement de perdre son job, et il se rend compte, c'est pas seulement de l'argent qu'il va perdre. Et là, on se rend compte à quel point il y a un problème dans nos sociétés, c'est celui que la réussite passe notamment par ce métier de trader. C'est pour ça que quelqu'un comme Zachary Quinto, qui est brillant, qui est un ingénieur, il est devenu trader, il n'est pas allé construire des ponts. Et je pense que c'est là qu'on a un problème à partir du moment où effectivement le métier de trader, c'est un métier qui symbolise une forme de réussite sociale, de réussite aussi économique. Alors oui, il y a cette fascination pour l'argent. Moi, j'ai trouvé assez finement décrit. Enfin, on n'est pas dans le bling-bling, on est juste sur une espèce d'obsession pour le salaire de ton N+1, de ton N+2. Enfin,
c'est l'obsession pour le salaire de tes proches. C'est-à-dire que c'est l'obsession de savoir ce mystère qui entoure un peu comme une bulle tes relations personnelles. C'est-à-dire, ce mec-là, il travaille autant que moi, il fait les mêmes heures, on se côtoie 15 heures par jour, on est plus ou moins dans les mêmes bureaux. Combien de plus que moi il gagne? C'est-à-dire, combien je vais gagner dans 5 ans? C'est tout simplement ça la question. Et je trouve que c'est assez finement amené, je trouve, justement, sur cette relation-là.
Et puis justement, enfin, à partir de ça, ce que montre le film aussi, c'est que ce monde-là, c'est un monde où il faut tuer pour être tué, et que, enfin, on le voit dans les relations intercollègues. Certes, ils s'entraident, mais ils essayent quand même d'obtenir la place de celui qui est au-dessus d'eux pour pouvoir gagner plus. Et on le voit aussi particulièrement dans la décision que prend la banque pour se sortir du merdier dans lequel elle s'est mise, qui est justement de faire tomber tous les autres pour ne rester pour être le seul le dernier debout. Donc vraiment, enfin, moi la plongée m'a vraiment effrayée et fascinée. Après, oui, c'est un film qui est assez difficile à suivre de par les thèmes qu'il traite et de par son rythme qui est très 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 rapide, et je pense qu'il faut être extrêmement concentré pour parvenir à saisir tous les enjeux de ce Margin Call.
Oui, je suis assez d'accord, il faut rester concentré, effectivement, c'est un film qui demande des prérequis, mais qui en même temps a deux niveaux de lecture, c'est-à-dire que sans ces prérequis, on peut quand même s'en sortir, comprendre aux têtes effarées des gens, même si on ne saisit pas l'ensemble des subtilités. Je trouve que c'est un film qui est très 2012, dans le sens où c'est un vrai film de la finance qui a été fait après les séries télévisuelles. On voit ce qui peut être gênant parfois, on a l'impression parfois de voir au départ notamment une sorte de Mad Men de 2010, moins l'humour mais dans la manière en fait très lente de faire avancer l'action, dans ces réunions, dans la manière très personnelle aussi et très réaliste de ce monde-là. Donc il n'y a pas effectivement ce recul, puisque c'est une plongée, vraiment une véritable immersion dans ce monde-là, il n'y a pas le recul caustique que peut avoir Mad Men par rapport au film. Il y a également une série que je cite souvent mais qui est assez remarquable à ce point de vue, qui est Damages, qui au lieu de se transporter dans le monde de la finance se situe dans le monde juridique et qui prend exactement les mêmes ce que Clément tu as appelé des innovations de mise en scène, c'est-à-dire que c'est exactement ces fausses deadlines, ces choses dont on sait qu'elles vont se passer de toute façon et en même temps nous maintiennent dans une sorte de faux suspense quand même, etc. C'est des choses qu'on voit déjà dans ces séries et parfois en plus abouti, ce qui fait qu'on est aujourd'hui laissé sur notre faim quand on voit un Margin Call qui ne dure que 2 heures, parce que c'est un film qui aurait pu être une série. On n'aurait pas dit ça en 2004 avant les très longues et très belles séries qu'on peut avoir, mais c'est un film qui aurait pu être comme ça décliné avec un avant, un après, etc. Bon, sur les acteurs, vous avez tout dit. Effectivement, on est avec la crème de la crème, donc il n'y a pas de problème particulier. Tout le monde est très intéressant dans leurs rapports, ils sont très bons. J'ai hésité au départ en fait entre deux sentiments, c'est-à-dire le sentiment de tiens, on va avoir une affaire Pélican, ça va être chouette, il va y avoir des trucs à décrypter, machin et tout, et de me dire ah ouais non mais si c'est un film juste sur le licenciement, les mecs qui sont pas contents parce qu'ils sont licenciés, ça va me mettre en dépression quoi. J'avais l'impression.
Mais ça a déjà été fait en plus dans le monde de la finance, enfin, et c'était assez mauvais donc.
Voilà, et puis on peut parler aussi du Jean-Marc Moutou aussi dans la manière d'appréhender les relations professionnelles, le film de Bon Matin de Jean-Marc Moutou, donc qui se concentrait sur les répercussions psychologiques d'une personne qui vient d'être licenciée. Donc on peut parler effectivement de ça. Après, le film est effectivement très réaliste, pour le meilleur comme pour le pire, puisque parfois on sent que le manque de distance, alors que lui, de manière chronologique, de manière temporelle, s'est donné une distance de 5 ans pour traiter le sujet, derrière, ne pas réussir à mettre suffisamment de distance sur ce qu'il voit, sur ce qu'il fait, et mettre tout au quotidien, ça peut donner une certaine sorte de lâcheté. J'ai l'impression de ne pas vraiment prendre son sujet à bras le corps. C'est un peu l'impression que j'ai, et c'est peut-être dans ce sens-là que je rejoins Clément, c'est-à-dire à la fois sur la longueur et à la fois sur le décalage ou le recul. J'ai eu l'impression d'être laissé sur ma faim, malgré tout ce que la presse dit. Effectivement, au niveau de la mise en scène, c'est intéressant. C'est à la fois un huis clos sans être du tout un huis clos, parce qu'on change de pièce en permanence, la caméra bouge, etc. Il y a des choses qui sont effectivement passionnantes dans le film, d'autres qui font quand même qu'il se hisse pas au niveau auquel il aurait pu prétendre, mais c'est qu'un premier film, et effectivement Jesse Chandler sera probablement un réalisateur qu'on attendra avec attente, voilà, avec espoir plutôt qu'attente. On passe donc tout de suite à Walk Away René, c'est le deuxième film de Jonathan Cowett, et je vous passe tout de suite une partie de la bande annonce.
Let me tell you what's going on. You remember my mother, Renee, right? We're on the road now. Ba-boom-ba. Ba-boom-ba-boom-ba-boom-ba.
You follow your command. I should lose weight and go to Hollywood and find a husband.
Voilà, donc c'était la bande-annonce de Walk Away René de Jonathan Cowett. Donc Jonathan Cowett, réalisateur de Tarnation notamment, qui avait été très bien accueilli d'ailleurs en 2003 au Festival de Cannes. Et c'est encore donc la même histoire de relation entre le réalisateur et sa mère, qu'il va chercher aux États-Unis puisqu'elle est victime d'une démence. Clémence, donc, est-ce que tu as aimé et été touchée par ce film ?
Alors, beaucoup. J'avais pas vu Tarnation, donc forcément, j'avais un regard sans a priori et assez naïf sur Jonathan Cowett et sur le film. Et on m'a dit depuis que c'était la même histoire, donc je suis un peu déçue. Mais... Donc, pour résumer vite fait, c'est l'histoire, c'est autobiographique. Donc, le réalisateur Jonathan Cowett s'est filmé alors qu'il allait chercher sa mère au Texas, lui vivant à New York. Parce qu'elle était dans une maison d'accueil pour personnes atteintes de troubles mentaux aigus, donc, ce qu'elle est. Et en gros, elle l'appelle au début du film en lui disant que ça va pas du tout, qu'elle se sent très mal, elle est maltraitée entre guillemets, mais qu'il lui donne pas les bons médicaments, etc. Donc lui, totalement paniqué, ce qui est compréhensible, décide d'aller la chercher. Et donc... de la mettre dans une autre maison d'accueil, mais entre temps il y a 3 semaines où elle continue de prendre ses médicaments, mais elle vit avec lui, ils sont à la fois sur la route et après elle doit vivre avec lui à New York, et donc commence ce voyage entre eux. Donc il va la chercher, il déménage, c'est tout un bazar avec le camion de déménagement, et au bout d'un moment ils se rendent compte qu'elle a perdu ou ils ont oublié les médicaments. Donc sa mère souffre de troubles aigus, donc bipolarité, schizophrénie, elle est vraiment atteinte de troubles très très forts, et ne plus avoir ses médicaments, c'est vraiment 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 problématique. Donc il commence à tout un espèce de délire, c'est pas un délire, mais il appelle toutes les personnes qu'il connaît dans les 4 coins des États-Unis pour essayer d'avoir une ordonnance, ce qui est difficile du simple fait que ce soit des médicaments comme du lithium ou tout ça, et même déontologiquement, et donc il n'arrive pas à trouver, donc il doit gérer sa mère sans médoc pendant le road trip. Bon voilà, en gros ça c'est l'histoire. Alors j'ai eu 10 minutes un peu, la première scène est super belle, il y a la folk, j'adore la folk, donc forcément j'étais un peu en mode ah c'est trop bien et tout. Puis en fait après les 10 minutes j'ai eu un petit moment de Ok, qu'est-ce qu'on sait même dire ? Est-ce que c'est un film pseudo-indépendant avec des images en Super 8 et d'une relation un peu bizarre comme on en a vu beaucoup ces dernières années ? Et en fait, au bout d'un moment, on comprend que toutes les images qui sont en Super 8, c'est des flashbacks sur des images d'archives que lui-même a prises à partir de 10 ans. Il a filmé sa famille, il a filmé sa mère, il a filmé ses grands-parents avec qui il a vécu parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui du fait de ses troubles. Et en fait, à partir du moment où on comprend ça, moi je ne le savais pas, là, on rentre dans une dimension du film qui est vachement, énormément plus profonde, parce que tout le film est sur la relation qu'ils ont entretenue pendant son enfance et pendant le voyage entre donc sa mère et lui, et les rappels d'images sur sa vie, c'est vraiment touchant. On voit la vie qu'il a eue avec ses grands-parents, sa mère qui a des phases totalement folles et des phases où elle est très très lucide, donc enfin, c'est la relation est presque inversée, c'est lui le père et c'est elle l'enfant, parce que voilà, enfin, elle est infantile, quoi. Mais voilà, après, enfin, Alexandre vous en parlera, mais moi j'ai justement beaucoup aimé le fait que ce soit autobiographique, et ça en fait un, pas un ovni, mais un film vraiment à part, parce que on rentre complètement dans son intimité, et c'est presque un film thérapeutique pour lui, parce que enfin, il a quand même 30 ans de vie avec une mère psychotique et des grands-parents qui ont passé s'occuper de lui à gérer, donc je crois qu'il avait peut-être besoin de ça pour s'en sortir. Mais en plus, enfin, on apprend que sa mère elle est devenue psychotique après avoir eu des traitements aux électrochocs. Enfin, c'est un sujet très dur, mais il arrive à en faire un truc tellement lumineux, enfin, avec tellement de grâce que moi j'ai pas pu ne pas aimer. Je pouvais pas ne pas aimer. Après, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a de la musique folk tout le long du film. Alors on pourra me dire que je suis une hipster ou quoi, mais j'ai adoré la BO et j'ai foncé sur internet pour aller voir la BO après. Bon, elle est pas facilement trouvable, mais voilà.
C'est Panico, et d'ailleurs le vinyle de la BO est sorti chez MK2.
Ah bah voilà, une bonne nouvelle pour pour moi après. Mais voilà, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un film qui traite de la famille, des relations mère-fille, bon, tout ce que vous voulez. Mais il y a pas en février ou janvier, il y avait eu Another Happy Day qui était sorti de Sam Levington avec Ezra Miller, qui m'avait profondément énervée, parce que c'était un film de 2 heures sur une famille qui est complètement déglingue, etc. Mais il en faisait trop, on n'y croyait pas, alors que là, bon, ok, c'est autobiographique, mais on arrive vraiment à rentrer dedans et à avoir de l'empathie pour lui. Donc j'ai beaucoup aimé. Enfin,
nous rappellerons donc que Philippine, qui fait des gros yeux dans le studio, a interviewé Ezra Miller à l'occasion
positive du film sur Synecdoche.
J'ai adoré la performance d'Ezra Miller, je remets pas en question ça, mais c'est le film que j'avais pas aimé, et justement j'ai vu ce rapport la famille des glingues, la musique folk et la mère qui part en couille, et là on y croit, alors que je m'étais profondément ennuyée pendant Another Happy Day. Désolée. Et pour la petite histoire, juste avant, j'ai eu la bande-annonce de On the Road, et il y avait une phrase, ça fait une phrase un peu de Tumblr d'adolescente de 14 ans qui disait voilà, c'est ça, j'écris ça sur mon agenda. Donc c'est une phrase de Sur la route qui dit ce qui m'intéresse, ce sont des fous furieux, ceux qui ne baillent jamais et qui brûlent comme des chandelles dans la nuit. Et ben, comme par hasard, c'est vraiment la phrase qui marche le mieux avec la mère de Jonathan Cahouette, René Leblanc, donc la fameuse Walk Away René. Et donc voilà, en gros, un film que je conseillerais aux gens qui aiment les films de hipsters avec de la musique folk et des relations mère-fils compliquées.
Voilà, on va demander à Alexandre s'il n'a pas été gêné, il n'y a pas une sorte de voyeurisme justement à mettre en scène à ce point cette mère dans le film de Cahouette.
Oui, c'est le voyeurisme qui est vraiment, je trouve, qui met vraiment vraiment mal à l'aise. Je trouve qu'il... D'accord, il filme énormément sa famille, mais il la filme parfois d'une manière assez spéciale, parce qu'il y a aussi tout un jeu avec son grand-père, Adolphe, ça ne s'invente pas, qui montrait dans sa démence quasiment jusqu'à sa mort, en fait, a une relation aussi avec sa fille extrêmement bizarre. Donc déjà, il faut savoir aussi que Cahouette... n'appelle, ne dit jamais maman, ne dit jamais papy, mamie, non, c'est il les appelle par leur prénom. Donc.
Mais les Adolphe, de ce nouveau verbe.
Il les appelle par leur prénom, ce qui met déjà une distance assez bizarre, sachant que bon, personne ne pourra nier le fait quand même que ça reste une très une belle lettre d'amour à sa mère, mais une deuxième, disons que...
Ça se comprend quand même, quand t'as vécu... Enfin,
ouais, bien sûr, non mais... Disons que Tarnation était une belle lettre d'amour déjà, surtout qu'en plus il y avait d'autres sujets qui étaient un peu plus poussés, donc il y avait notamment tout le passé un peu suicidaire du réalisateur qui là n'est finalement pas montré, et heureusement, parce que sinon ça aurait été vraiment une copie conforme. Mais non vraiment le voyeurisme, et je vous le dis, je l'ai vu avec quelqu'un qui m'a dit vraiment la même chose. On se sent mal à l'aise quand on voit son grand-père en sous-vêtements, en train de délirer avec sa mère qui est en train d'entendre des voix presque. C'est bizarre. Ou après, quand il y a certaines scènes, je vais pas dire exactement laquelle, mais on se croirait dans Paranormal Activity. Donc c'est pas vraiment ce que j'attendais du film. Et donc après, la critique vraiment principale, mais comme beaucoup de personnes ou très peu de gens ont vu Tarnation, et j'avoue que c'est pas il est pas non plus excellent, enfin j'ai pas adoré. On retrouve énormément d'éléments, disons que je dirais 40% du film c'est un résumé de Tarnation. Donc au moins ce qui est bien, c'est que si on se dit bah tiens, j'arrive en route en touriste, on comprend ce qui se passe, mais c'est pas... disons qu'on a perdu un petit peu la... pas la candeur, mais la spontanéité qu'il y avait dans le premier film. Et là, on sent quand même des ficelles un peu plus grosses, sachant que même que, sur certains aspects, ça se rapproche du docu-fiction, donc il y a eu des recompositions. Il a pris une actrice pour jouer sa mère jeune, donc il n'y a pas non plus que des images documentaires filmées par lui. Mais malgré toutes ces critiques, ça reste une belle lettre d'amour à sa mère, et la manière dont l'handicap est montré est assez belle, assez intéressante, et voilà.
Et donc, Pauline, est-ce que tu penses que cette lettre d'amour à sa mère avait les mérites pour être rendue publique ou pas ?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est plutôt un bon film, en fait. Déjà, je trouve que finalement, c'est pas si... je sais pas trop le mot, misérabiliste ou si gênant. Enfin, ça l'est plutôt, mais déjà, il y a tout ce côté de road movie, c'est-à-dire que Jonathan Cahuète va chercher sa mère dans son hôpital pour la ramener à New York. Et il y a presque un côté, d'ailleurs, un peu gênant, parce que ça a l'air un peu caustique, au fond. De road trip, en fait, ils sont dans leur gros camion, voilà, il y a le déménagement, donc il y a un côté un peu presque bon enfant, je dirais, presque, où on les voit, il y a notamment ces plans assez récurrents où on les voit dans le camion avec le regard un peu vague, un peu vitreux, mais que je trouve assez charmant finalement. Mais bien sûr, ce n'est pas ça ne vise pas à l'esthétisation, donc Alexandre l'a dit, il y a des plans de longs plans sur les scènes assez confondantes de crise, en fait, du grand-père ou de René, la maman. Je trouve que, en fait, j'ai un peu envie de le comparer au film, à un film allemand dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est Pour lui, qui est sorti il y a quelques semaines et qui suit en fait l'histoire d'un homme qui devient progressivement en fait un légume, littéralement, parce qu'il est atteint de troubles au cerveau. Et en fait, il le filme vraiment avec cet aspect assez naturaliste. Dans son évolution dans la maladie, mais je trouve qu'en fait ce qui est assez fort dans ces deux films, c'est que de filmer cet aspect là et de façon assez récurrente et tout à fait troublante, on savoure d'autant mieux les moments de tendresse et les moments d'accalmie où on peut partager les dernières bribes d'un amour fraternel et enfin pour le coup un amour mère-fils. Je trouve qu'on savoure ces moments d'autant mieux. Après, moi, j'ai bien aimé, évidemment, le côté montage cafouilleux, instable, à la façon du tempérament de la maman, donc avec toutes ces brèches, avec l'insertion des séquences vidéo de l'enfance. Donc tout ça, ça faisait assez amateur, assez brouillé et brouillon. Mais je trouve que ça donne un charme particulier au film, qui, à mon sens, est vraiment un film à voir.
Voilà, donc c'était la critique de Walk Away René de Jonathan Cahuète. On va tout de suite passer à la critique donc du film Miss Bala de Gerardo Naranjo.
Soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar a la belleza de la mujer de mi estado.
Voilà, donc c'était l'abandonnance de Miss Bala, qui est donc l'histoire d'une jeune Miss donc interprétée par Stéphanie Sigman, qui est prise malgré elle dans le monde de la drogue et du narcotrafic au Mexique, qu'on voit dans toutes ses phases, dans toutes ses géographies et sous tous ses aspects, de manière peut-être un peu académique parfois. C'est donc le troisième film de Gerardo Naranjo, et c'est Pauline qui va nous parler du film.
Oui, alors je pense que ce film ne mérite pas du tout les excellentes critiques qu'il a reçues. Parce que, à mon sens, donc déjà, un premier argument, c'est que, à mon avis, il se base sur des clichés bien trop passés au crible et qu'on a déjà bien trop vu. Donc c'est toujours le même thème, c'est le Mexique, donc l'enchaînement de la violence. La pauvre jeune fille, sage, sûrement vierge et tout à fait vertueuse, qui vit avec son papa et son petit frère, qui va se faire prendre dans ce mécanisme implacable qui est la lutte entre les gangs et la police locale. Donc à mon avis, déjà, il y a cet aspect du cliché qui est bien trop, enfin qui est pas en fait assez bien tourné, parce que finalement, certes, soit on peut prendre le cliché à son compte pour en faire quelque chose. Mais ce film, à mon sens, est vraiment une zone de non-lieu, une zone grise. Il ne prend pas vraiment de parti parce qu'on a, on a donc des plans assez réalistes, en fait, enfin, qui se veulent naturalistes et réalistes dans la perception de la violence et de l'enchaînement de cette violence-là et donc cette jeune fille qui va se faire prendre et enchaîner petit à petit dans le gang. On aurait pu avoir ce parti naturaliste mais quand même distancié avec un message un peu critique, un peu distancié et un message plus engagé. Donc ça, on l'a pas. Et dans l'autre sens, on aurait pu en faire un film plus de plaisir, un film plus d'action avec du rythme, avec des rebondissements quand même plus agréables. Il n'en est rien. Le film n'a pris aucun de ces deux parties. Il n'y a pas de rythme. Les scènes de violence qui auraient pu avoir un certain piquant tombent complètement à plat. Il y a très peu de jeux de caméra. Aucune tension n'est amenée, en fait.
Sur le jeu de caméra, attends, je te coupe deux secondes. On peut pas être d'accord. Le film est construit en plan séquence. C'est quand même assez. La prouesse, en tout cas, de ce jeu de caméra est quand même. Il y a une virtuosité
dans les scènes de violence, je suis pas d'accord. Il y a certes peut-être quelques travelling, mais il y a quand même quelque chose d'assez figé. Et qui perd de sa tension, à mon sens. Après, je pense que le film, en fait, ressemble plus à une litanie d'un enchaînement, en fait, de violence et de noirceur dans le tableau qui s'essouffle au bout du compte. Et surtout, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on soit constamment devant le visage fermé de cette jeune fille. Et je trouve qu'il y a autour de ça une esthétisation de la victime, en fait, parce qu'on va constamment avoir des gros plans sur son très beau visage au bord des larmes, complètement frustré. Et le personnage n'est pas creusé. On a aussi des plans sur sa chevelure qui sont récurrents, qui à mon sens ne servent à rien. Donc cette répétition là à mon avis, perd son sens. Et finalement, ce qui aurait pu être assez corrosif dans le message par rapport à l'intrigue, donc cette jeune fille qui veut être une miss, ce qui aurait pu être un potentiel corrosif perd totalement de cette opportunité-là, puisque la victime se retrouve véritablement une sorte d'objet, en fait, esthétique qu'on regarde tout au long du film sans pouvoir accéder à sa personnalité réellement. Donc moi, une grosse déception pour moi.
Voilà, on passe tout de suite à l'avis de Clément.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Pauline. Je crois que j'ai vraiment pas grand chose à rajouter, si ce n'est le côté, oui, effectivement, on a vu et revu ces problèmes là au Mexique, sauf que y a malheureusement un film qui n'est pas sorti en France et qui pour moi sert de référence, c'est vraiment L'Inferno de Estrada, qui avait notamment été interdit partiellement au Mexique, qui a été un des
pas
plus
partiellement,
gros
succès, qui a été censuré,
oui, mais
au Mexique.
Après plusieurs semaines d'exploitation, enfin voilà, c'est pour ça que je disais partiellement, et qui pour moi est effectivement le film référence sur les problèmes liés au narcotrafic, enfin au trafic de drogue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui mêle à la fois humour, un scénario vraiment excellent avec des vrais rebondissements de situation, et là vraiment on est face à l'exact opposé de ce film. Il faut accorder, comme tu l'as dit Charles, à l'un d'entre eux le bénéfice d'un certain talent dans la mise en scène. Il y a vraiment des très très beaux plans, moi je pensais notamment dans le désert ou des choses comme ça.
Je suis assez d'accord avec Pauline, c'est-à-dire que c'est dans les moments les plus calme, les moments d'accalmie, les moments où suit cette fille sans qu'il ne se passe rien, que les plans sont les plus beaux.
Et où on n'a pas juste, comme tu le disais, Pauline, que sa tête ou ses cheveux. Enfin, c'est au moment où pour moi il adopte un cadre aussi un peu plus large, où il y a, je sais pas, des paysages ou même juste la ville de. Il n'est pas à Tijuana, il est à la frontière. Mais voilà, et pour moi il y a aussi un gros problème scénaristique dans ce film, c'est que. On est vraiment dans le cas typique du descente aux enfers, enfin le cercle infernal, on peut absolument pas en sortir. Et à la fin, sans dévoiler, mais on a un espèce de double rebondissement de situation absolument incompréhensible.
Et ridicule.
D'abord incompréhensible, ridicule, je sais pas, parce qu'il y a vraiment un côté entre guillemets réaliste, on pensait notamment à l'affaire Florence Cassé, mais c'est assez inexplicable. Pauline, tu me disais avant que c'était peut-être parce que la guerre au Mexique actuelle était, même les Mexicains eux-mêmes la comprenaient pas, alors avec cette pirouette, je suis pas convaincu, enfin je trouve vraiment, je sais pas si on lui a imposé cette espèce de double fin, enfin, c'était vraiment dommageable. Donc moi j'ai vraiment été très déçu. Puis comme tu l'as dit, c'est son personnage principal, on ressent aucune empathie pour elle, quoi. On aime bien quand même défendre la victime, l'orphelin au cinéma, et là vraiment on n'a aucun moyen de la défendre.
Oui,
alors même
qu'elle
amène son frère à l'école, etc.
Il y a des incohérences. Au début, elle, au lieu de s'échapper, elle va, avec l'argent que le chef du gang lui a donné, elle veut s'acheter une robe. Alors, est-ce qu'elle veut partir ? Est-ce qu'elle veut s'acheter une robe ? Enfin, on ne comprend pas vraiment ce parti-là. Quoi.
Et puis, effectivement, le titre du film sur le concours de Miss, moi, j'ai trouvé que c'était paradoxalement une des scènes les plus ratées de ce film. Ce concours de Miss qui a bien lieu, dans des conditions évidemment bien différentes de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et c'est vraiment, pour moi, le point le plus mauvais de ce film. Et ensuite, on dérive dans ces double, triple rebondissements à n'en plus finir. Donc vraiment une très, très grosse déception pour moi aussi.
Ouais, c'est une purge, en fait. C'est mieux que Miss Détective, dans le clan des Miss qui succède. C'est vraiment pas terrible. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réalisateur, je vais pas faire toute son histoire, mais c'est un petit réalisateur, c'est-à-dire que c'est un réalisateur de films intimistes, que ce soit dans Boy Explotar ou Dramamex, c'était un mec qui faisait en fait des sortes de nouvelles vagues mexicaines, donc il filmait comme ça des incohérences, des traits d'esprit, etc., sur les plages d'Acapulco, qu'elles soient faites par des prostituées, des gays sidaïques ou des grosses mamas noires. Et il y avait quelque chose de très beau, de très fin, de très léger dans la manière dont il amenait les choses. Et puis tout de suite, comme c'était une promesse du cinéma mexicain, il a été mis sur un film Canana, donc qui est la société de production de Gael García Bernal et Diego Luna, qui fait par ailleurs des très bons films. On se souvient d'Abel de Diego Luna l'année dernière, par exemple, mais qui s'est marié avec 20th Century Fox et qui depuis donc a dû produire le grand film d'action sur le narcotrafic pour expliquer le narcotrafic aux Américains, parce qu'ils ont bien besoin de comprendre. Et ils ont sorti ça. Et c'est pas terrible. Parce que au-delà de tout l'apparat, effectivement, de la mise en scène au départ, notamment dans de longs plans séquences qui font presque penser au film Children of Men d'Alfonso Cuarón, qui était sorti en 2006 ou 2007, on a déjà, contrairement à Clive Owen, Stephanie Sigman est quand même une actrice relativement rédhibitoire. J'irais même pas plus qu'elle, c'est-à-dire qu'on, malgré sa beauté plastique et la froideur qu'elle dégage, on en a littéralement marre de voir sa tête au fur et à mesure du film. Ce qui est quand même difficile. Je dis pas qu'il fallait éprouver de l'empathie pour elle, parce qu'en fait, le pari du réalisateur, qui est un pari intéressant, c'est-à-dire, on va suivre toute la guerre de la drogue à partir d'un point, et on va avoir aucune empathie pour la victime. Et c'est tellement simple d'avoir de l'empathie pour la victime au cinéma, c'est là où je te rejoins pas forcément, que l'idée de ne pas avoir d'empathie pour cette victime était pas bête. Le problème, c'est qu'il fallait pas qu'elle se transforme en antipathie, et là c'est le cas. Donc c'est quand même un peu triste, et puis d'autant que le film est très académique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'elle aille du petit dealer, et puis qu'elle remonte l'ensemble du trafic jusqu'à un grand général, jusqu'à des rebondissements à n'en plus finir, jusqu'à des scènes aux États-Unis qui sont laides, mais vraiment mal mises en scène, mal cadrées, où on voit une partie de ses cheveux, je me rappelle de bagnole qui saute, j'en ai un souvenir assez tâcheron pour le coup sur ces plans-là, sur justement les plans où il est censé y avoir de l'action. Et effectivement, à partir du moment où déroule comme ça de manière très très proprette ce qui se passe sur la guerre au Mexique, d'autant qu'il n'épargne personne, et c'est assez dommage, parce que bon, effectivement, El Infierno d'Estrada n'épargnait personne, mais il y avait une certaine distance par rapport à son sujet-là. Il épargne vraiment personne. C'est-à-dire que c'est vraiment le discours un peu américain à la con de dire si t'es irakien et que tu t'es pas révolté contre Saddam Hussein, c'est que t'es pas innocent au final. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans le film. Il y a un peu de choses malsaines qui est de dire tout le monde est mauvais, tout le monde est corrompu parce que la Miss, elle veut s'acheter ça, parce que tout le monde sait qu'il y a de l'argent de la drogue qui achète plein de choses au fur et à mesure, et personne n'est à sauver. Et ça, je trouve ça un peu triste. Enfin, je trouve que à la fois c'est triste, mais bon, on peut admettre qu'un film soit triste, mais à la fois je pense que c'est si ce n'est pas faux, en tout cas c'est assez exagéré, et je trouve que c'est pas une philosophie, la philosophie du film qui s'en dégage est pas non plus extrêmement intéressante. Voilà, on va donc tout de suite passer au film de Cannes à la place des coups de cœur cette fois-ci, puisque nous sommes en retard, et on va donc demander à chacun quel est le film qu'il attend le plus pour Cannes. On va peut-être commencer par Philippine.
Alors mon film le plus attendu de Cannes est un film en compétition de sélection officielle, qui est le dernier film de Jacques Audiard, De rouille et d'os, avec donc Marion Cotillard sans jambes et Mathias Schoenaert, qui n'a pas perdu ses muscles depuis Bullhead. Voilà.
Et Alexandre, ton film le plus attendu ?
Donc moi ce serait plutôt Cosmopolis de Cronenberg. Donc je pense que malgré Robert Pattinson, qui peut-être va nous surprendre, ça a l'air d'être une nouvelle vision de Wall Street, hein, donc je pense que ça peut vraiment être intéressant.
Clémence.
Moi, c'est Moonrise Kingdom de Wes Anderson qui va faire l'ouverture parce que la bande-annonce est trop craquante, quoi.
Clément.
Moi, ça va pas être en sélection officielle puisque malheureusement, ça n'a pas été sélectionné. C'est Le Grand Soir, si je ne me trompe pas, de Kerver Né de Lépine, qui avait réalisé Mammouth, qui était absolument génial. Et donc là, je trouve ça enfin, pas scandaleux, mais voilà, il n'est pas en sélection officielle, mais il sera à un certain regard.
Voilà, moi c'est Post Nebras Lux de Carlos Regalas, bien entendu, qui est en sélection officielle et en compétition, et qui a priori est le film le plus expérimental et le plus barré de la sélection officielle. Et le deuxième, qui fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, c'est bien sûr The We and I de Michel Gondry, que j'attends avec impatience et qui est un des seuls films de Cannes que je ne verrai pas malheureusement. Voilà, c'était Popcorn, donc c'était la 26e émission de la saison, et on vous souhaite une bonne écoute sur la radio des étudiants de Sciences Po. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.